Si vous venez de nous rejoindre, il est 10h04 sur Demoiselle. Merci d'être avec nous et c'est parti jusqu'à 11h pour votre émission Parole d'animaux avec vous, Rachel.
Oui, bonjour Pierre, ça va ?
Bonjour à vous, ça va ?
Oui, très bien. Bon, j'ai pas porté le soleil aujourd'hui.
Parce que logiquement, d'après les météo France, ça devrait arriver.
Bon, allez.
Et j'espère que vous avez la crème solaire parce que lundi 29 degrés, hein, Rachel.
Ah oui. Non, c'est pas vrai.
Si, 29 degrés lundi.
Alors,
par endroit, on aura entre 23 et 29 degrés.
Ah bah dis donc, bah c'est surprenant.
Bah oui, pour un mois d'avril, voilà.
On verra ça lundi alors.
Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a au programme de ce matin ?
Eh bien, on va partir donc dans Parole d'animaux. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole d'animaux. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée au parcours aussi atypique que profondément marquant. Elle a grandi entourée de chevaux, vécu une expérience de mort imminente à l'adolescence, exploré le monde du commerce pendant plusieurs années, avant de revenir à l'essentiel, le vivant, l'animal et l'humain. Elle est aujourd'hui fondatrice de l'école de la vie sur la commune de La Ronde, un lieu unique où l'on vient se reconnecter à soi, notamment grâce à la médiation animale. Bonjour Noélie, merci d'être avec nous.
Bonjour Rachel.
Alors Noélie, votre histoire commence avec les chevaux, vous êtes littéralement née dedans, vous viviez entourée d'animaux et votre père accueillait déjà des personnes en situation de handicap dans sa ferme équestre. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter cette enfance ?
Mon enfance, alors elle est un peu particulière et atypique parce que je vivais pas du tout avec les humains, enfin j'avais un peu eu des urticaires quand je voyais les humains, même à l'école, je ne m'approchais pas d'eux. Et donc du coup, je vivais au milieu des chevaux. Mon papa était éleveur de chevaux, donc je vivais au milieu de ces chevaux-là et je passais tout mon temps libre, y compris à faire mes devoirs, etc., dans le groupe de chevaux.
Ah oui,
quand même. Voilà, je dormais avec eux, mes parents couraient après moi pour que je dorme dans mon lit. Donc ouais, j'avais vraiment une relation particulière avec eux et ce qui me fascinait le plus, c'est de voir justement des personnes différentes, comme avec du handicap ou des enfants placés, trouvaient en fait de l'apaisement auprès des animaux. Donc je trouvais ça extraordinaire de voir que à la fois le cheval était différent et à la fois l'humain avait de l'apaisement.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté très jeune d'être au contact à la fois des animaux et de ce public fragile ?
Eh bien, je dirais, si on part un peu là-dessus, ça m'a permis de comprendre les deux parts animales qu'on a en nous, parce
D'accord.
que ça, on n'en parle pas énormément, mais on a une part de proie et une part de prédateur, et c'est ça qui m'a permis de pouvoir m'intégrer dans cette jungle de la société, et de comprendre aussi D'accord. après, par la suite, l'humain. Mais c'était surtout une compréhension de l'animal, de cette part de proie, parce que le cheval est une proie, mais aussi de la part de prédateur que nous, on a en tant qu'humain.
C'est-à-dire que vous adaptez, en fin de compte, à la proie, parce que vous n'êtes pas le prédateur du cheval, mais vous allez devenir l'herbivore qu'il est, l'animal qui peut être prédaté.
C'est ça. En fait, dans un groupe de chevaux, chacun a son identité et chacun est utile au groupe.
D'accord.
C'est ce qu'on peut penser,
oui,
en fait, à l'intelligence collective.
D'accord. Okay.
Chacun a un rôle, c'est-à-dire que tout le monde sert pour le groupe. Et moi, en tant qu'humain, il a fallu que je m'adapte à ça et que je serve, en fait, dans leur groupe pour être acceptée. Voilà.
Ah, d'accord, c'est ça. Ok, très bien. Ensuite, alors, vous poursuivez naturellement donc, dans cette voie avec des études dans le milieu du cheval, puis vous devenez cavalière d'entraînement pour les chevaux de course. Alors, à quoi ressemblait votre quotidien à cette époque ?
Eh bien, je vivais cheval, je mangeais cheval,
voilà,
je dormais cheval, je faisais tout. Pour les chevaux, je suis partie même un an au Portugal dans une écurie de course. Ma vie était autour vraiment des chevaux tout au long de ça. Et surtout, je faisais beaucoup d'observations et d'expérimentations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me posais toujours la question, tiens, ce cheval, il a telle performance, comment je peux aller plus loin ? Et en même temps, je faisais les expériences sur moi. C'est-à-dire que chaque chose que je mettais en place pour les chevaux, je le mettais en place sur moi, voir ce que ça faisait.
Et ça, on va en parler un peu plus tard, d'ailleurs. Mais avant ça, il y a cet événement qui a marqué votre vie, un accident de cheval à l'adolescence. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment ?
Eh bien, à l'âge de 16 ans, exactement, c'était un 2 août, je me rappellerai toujours de cette journée-là. J'étais partie entraîner ma jument dans la carrière chez mon papa. Et donc, on était en train de, de faire un galop, faire un grand cercle, parce qu'on travaillait en fait sur l'incurvation, etc. Enfin, je vais pas partir sur les parties techniques.
On a compris. Le sens.
En fait, à un moment donné, elle a trébuché. Alors, aucune raison apparente pour qu'elle trébuche. Elle s'est retrouvée sur les genoux. Moi, j'ai fait un énorme soleil devant elle. Et quand elle s'est relevée, elle m'a marché dessus, en fait. J'ai été son premier appui. Donc, j'ai eu la chance de pas tomber dans le coma ou autre chose. J'ai pu me relever. J'ai voulu remonter à cheval parce que c'est ce qu'on nous apprend, tu tombes, tu remontes à cheval. Et là, j'ai vu que c'était pas possible, qu'il y avait quelque chose.
Aïe, 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 aïe.
Donc là, je suis partie voir mon papa parce que j'étais à 100 mètres quand même de la maison. Donc la jument m'a aidée en fait à aller jusqu'à chez mon papa. Et donc mon père a vu en fait mon état. Je suis pas très colorée, mais là j'étais blanche de chez blanche. Et il m'a dit bon, bah je la décèle et on va direct à l'hôpital. Donc on est parti en fait dans un tout petit hôpital de campagne parce que moi à l'époque j'habitais Oloron-Sainte-Marie, donc dans le 64. Et quand ils m'ont vu, eh ben, je peux vous dire qu'ils m'ont pris en charge direct.
Oui.
Voilà, tension, la tension était à 6.
Oui, bon, d'accord.
Voilà, hémorragie interne totale. En fait, on ne savait pas trop ce qu'il y avait parce que même au scanner, ils ne voyaient pas du tout ce qui se passait. Ils voyaient juste du sang, en fait, dans l'abdomen. Et quand j'ai fait mon opération, eh ben, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps.
Alors, justement, voilà. Ça va m'amener à la prochaine question. Alors, cette expérience donc, a profondément marqué votre vision de la vie. Aujourd'hui, vous dites quelque chose de très fort, qu'on soit ici pour vivre une expérience, mais pas forcément pour avoir une mission parfaite. Est-ce que vous pouvez expliquer cette vision donc, vous me dites, à l'EMI que vous avez vécu?
L'EMI, donc une expérience de mort imminente. Donc en fait, j'ai fait un arrêt cardiaque sur la table d'opération, qui a duré 3 minutes 28. Exactement. Et je me suis retrouvée du coup au-dessus de mon corps, où j'ai entendu en fait les médecins s'affrêter pour me ramener. Et après, j'ai vu donc la lumière avec le tunnel.
Que tout le monde décrit d'ailleurs dans ces conditions-là.
Oui, oui, oui. Alors, on le vit tous pas forcément pareil, parce que on a tous nos ressentis et nos vécus. Et aussi, quand on revient, en fait, c'est pas aussi sur les mêmes choses. Mais du coup, ouais, j'ai vu ce tunnel avec des accélérations et des décélérations, un petit peu comme dans Matrix ou dans Stargate, pour ceux qui ont vu les films. Et en fait, c'est comme si mon corps ralentissait pour devenir non-matière, quoi, devenir énergie, voilà ce qu'on peut dire. Et je me suis retrouvée, en fait, devant deux personnes très lumineuses où je ne voyais pas du tout les visages. Et en fait, la première chose qu'ils m'ont dit quand je suis arrivée, ils m'ont dit « Félicitations, tu as provoqué ta mort !» Voilà. Et après, nous avons eu une grande discussion. Alors, je ne peux pas tout révéler de cette discussion-là.
Non,
parce qu'elle
c'est intime aussi.
Voilà, très personnelle. Mais en tous les cas, il y a deux choses que je peux dire. C'est que j'ai eu le choix de revenir. C'est-à-dire qu'ils m'ont montré à la fois les moments, si je partais, comment allait se finir avec mes parents et mes proches. Et à la fois, si je reste... en gros, qu'est-ce que je venais expérimenter? Mais c'est pas une mission. J'aime bien dire que la mission, c'est quelque chose où on doit faire des choses pour les autres, mais pour moi, on vient sur Terre pour nous-mêmes et pour expérimenter, pour grandir, pour avancer, en fait, pour vivre, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis qu'on vient pas sur une mission, mais qu'on vient plutôt expérimenter une façon de vivre et expérimenter, en fait, cette matière.
Et c'est vrai que c'est bien d'avoir cette vision de la vie, parce que quand on est confronté à des gros problèmes dans sa vie, tout le monde est confronté à un moment donné à des gros soucis, c'est vrai qu'on se dit finalement on est là pour une mission, on expérimente, on le vit, il faut le vivre, parce qu'après ça va nous apprendre des choses et ça va nous amener à des projets comme vous avez d'ailleurs aujourd'hui. On va en parler juste après la publicité et puis on revient tout de suite. Allez, à tout de suite.
C'est le week-end, Demoiselle. 10h19 sur Demoiselle, on poursuit notre émission Parole d'animaux avec vous Rachel et votre invité ce matin, c'est Noélie Sicco.
Alors de retour dans Parole d'animaux sur Demoiselle, alors nous sommes effectivement avec Noélie Sicco. Alors pour continuer la première partie, une petite dernière question Noélie, pourquoi cet événement vous a amené à travailler avec l'homme et l'animal? Alors je rappelle juste que vous avez eu une EMI qui vous a ouvert des portes sur votre avenir. Alors, pourquoi ?
En fait, quand j'ai fait l'EMI, j'ai eu le choix de revenir sur Terre. Et pendant toute la discussion que j'ai eue avec eux, ils m'ont montré, en fait, l'expérience que j'étais venue faire en fait, sur Terre à apprendre de l'animal et de mettre en relation l'homme et l'animal. Et quand je suis revenue, je me suis dit, chouette, trop bien, ça va être génial de pouvoir voir... les humains au milieu de la nature, au milieu du vivant. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça.
Oui, bah oui.
Il a fallu d'abord que je me comprenne, en fait, moi. Et c'est de là, en fait, où est parti tout le projet que j'ai monté, ouais. En fait.
Et oui, parce que d'abord, vous avez quand même commencé, donc vous avez fait 10 ans dans oui. le commerce, donc oui. qui n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui, donc un univers très différent. Qu'est-ce que cette période, donc justement pour partir sur la connaissance de soi et des autres, qu'est-ce que cette période vous a appris sur l'humain ?
Bah, en fait, avant que je sois dans le commerce, j'étais déjà très introvertie et beaucoup sur moi et beaucoup avec les animaux et j'avais pas de relations sociales. Enfin, j'avais les relations sociales avec les animaux, donc c'était pas vraiment...
Adapté à la société humaine.
C'est ça. C'était pas du tout. Alors, et pourtant, ça m'a beaucoup aidée. Après, derrière, quand on apprend la psychologie à la fois de l'humain et de l'animal, on s'aperçoit qu'en fait, on est des grands animaux et qu'on a beaucoup oublié de choses de nous parce qu'on a quand même vécu 500 000 ans homme de Cro-Magnon, hein, enfin voilà, à la préhistoire, et on a vécu que 18 000 ans sociabilisation. Donc en fait, déjà, il y a un paradoxe énorme là-dessus, et beaucoup de personnes en fait ont enterré leur part de proie et de prédateur et vivent en mode automatique. Donc le commerce, ça m'a beaucoup aidé à avoir cette compréhension en fait du comportement humain.
Donc c'est bien utile.
Ah ben oui.
Cette période-là.
Ben ça, en fait, c'est comme ça que j'ai appris l'humain, c'est-à-dire que quand on va dans le grand bain du commerce à faire du porte-à-porte, on est dans l'obligation en fait de comprendre le fonctionnement de l'humain et de savoir comment vendre. Donc à
c'est
un moment
vrai.
Donné,
et s'adapter à l'autre.
C'est
aussi.
Ça. Et en fait, moi, je voulais pas vendre avec force, je voulais pas menacer les gens, enfin, je voulais pas faire de manipulation. Donc, je me suis posé des questions et je me suis dit, tiens, bah, comment je peux vendre naturellement en étant moi-même et en arrivant chez les gens et en faisant ça. Alors, bien sûr, les deux premières années, ça a été très très dur parce que de passer d'un monde animal où chacun est vrai et vit le moment présent.
Ça n'a rien à voir.
À partir.
C'est sûr.
Dans le commerce avec des humains où chacun a ses traumas et en fait vit avec ses traumas et fantasme des choses, ben on est sur deux.
Ouais, et justement, donc ça me fait bien sûr rebondir sur notre question. Est-ce que finalement ça vous a aidé à mieux comprendre les comportements, les émotions, les mécanismes humains que vous retrouvez aujourd'hui dans votre travail ?
Ben en fait, alors déjà les émotions, on les explique pas forcément et on nous apprend quand on est enfant de les enfouir. Moi, je pense que je les ai jamais enfouis. Parce que bah, quand on vit avec ses chevaux, un cheval qui a peur, il a peur. On ne peut pas l'arrêter à un moment donné, il faut comprendre en fait ses peurs. Comprendre qui il est, comprendre comment faire pour plus qu'il ait peur, etc. Enfin, tout ça. Et en fait, aussi comprendre que bah, la fuite, la dissociation et l'attaque, c'est des choses naturelles.
Ah oui.
Et qu'en tant qu'humain, bah, on fait exactement la même chose différemment, bien sûr, sur différentes facettes. Mais dans notre vie, en fait, on fait toujours ça. Tout le temps.
Dans tous les domaines, d'ailleurs.
Dans tous les domaines.
Et à quel moment vous ressentez le besoin de revenir aux animaux et surtout pourquoi la médiation animale ?
Ben en fait, je fais 10 ans de commerce. Je finis mes 10 ans de commerce en centre de formation, justement à Rochefort, à l'Aftral, au bout de 4 ans. Et j'avais toujours envie de revenir sur la médiation animale. Alors, il faut savoir que j'ai toujours gardé des chevaux pendant que j'étais commerciale. C'était mon échappatoire.
Oui.
Je me suis formée énormément en médecine chinoise, comportement humain, parce que j'ai fait des formations, en fait... à l'étranger, donc plutôt aux États-Unis et au Canada, sur la psychologie de l'humain, la psychologie de l'animal, sur voilà, l'énergie en fait, de l'humain, etc. Parce que même si j'avais développé des capacités après mon EMI, bah, y a des choses qu'il faut comprendre en fait, avec de la théorie. Enfin, pour moi, il faut passer là-dessus, on peut pas...
Un sacré travail hein, que vous avez fait sur vous. Hein.
Voilà. et en fait, j'ai commencé à réavoir des personnes qui venaient et je faisais ça pour m'amuser, parce que c'était des temps, en fait, c'était des temps que j'aimais et ça me permettait de me divertir et de... En fait, c'était aussi un tremplin pour enlever le stress que je pouvais avoir au travail. Parce qu'en tant que commercial, il faut se le dire, on est quand même très stressé.
C'est sûr.
Et je suis quelqu'un quand même d'hypersensible. Donc en fait, j'étais sujette à l'anxiété et le stress. Même aujourd'hui, hein, j'en fais encore et je le dis, je vis ces phases de stress et d'anxiété. D'ailleurs, sur les réseaux, j'en parle quasiment tout le temps quand j'ai des phases de stress et d'anxiété. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on le cache trop et on donne des médicaments d'antidépresseurs à la place. Mmh. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais bon. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Et en fait, les animaux m'ont permis à ça, en fait, m'ont permis de me dire « reviens à toi, recentre-toi », entre guillemets, mais surtout « nourris ta valeur, nourris ton rêve ». Et ça a toujours été mon rêve, en fait, de monter cette structure. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai ça en tête. Et bah, après les 4 ans de commerce... Et ça a été naturel.
Et c'est ce qui vous a amené donc à la médiation animale. Alors, pour expliquer aux auditeurs ce que c'est que la médiation animale, est-ce que vous pourriez la définir ?
Oui, je peux définir ça. C'est de la thérapie par le biais de l'animal. Alors, ça veut dire que l'humain, on le met en relation avec un animal. Alors, moi, je travaille surtout avec des animaux en totale liberté, en tous les cas au début. Et c'est l'animal qui interagit en fait avec l'humain et qui lui amène un bien-être et qui lui permet en fait de se découvrir sur ses émotions, sur ses traumas et de comprendre en fait ces deux parts de proie et de prédateur qu'on a en nous.
Voilà, et qu'on ne doit pas rejeter mais accepter.
C'est ça, tout à fait.
Et concrètement, donc, une personne arrive chez vous pour une séance. Comment ça se passe ?
Alors, j'ai pas forcément besoin de savoir pourquoi elle vient. En tous les cas, au début, mon but, dans un premier temps, c'est de l'amener à ressentir son corps. Parce que aujourd'hui, je vais dire, allez, 95% des gens n'ont plus de sensations dans leur corps. C'est-à-dire que si on leur demande qu'est-ce que ça te fait la tristesse dans ton corps, les gens vont dire on pleure. Mais autre chose que ça, ils ne sont pas capables en fait, de le décrire. Est-ce qu'ils ont des picotements dans le corps ? Est-ce qu'ils sont tendus ? Est-ce que ça, les gens sont incapables aujourd'hui de le décrire. Donc le but, c'est de l'amener auprès des animaux et en fait, qu'ils se reconnectent à son aspect corporel et d'arrêter en fait, d'être dans le mental. Donc là, on va faire tout un cheminement corporel de ce qu'on appelle un scan du corps. Donc on va se pencher en fait, sur son corps, guidé par moi-même. Et le cheval va venir interagir en fait, avec la personne. Donc il y a des choses qui vont se passer. On va travailler sur de la respiration aussi, se détendre, etc. Et après, on va partir sur... soit on part sur une discussion, et là, le cheval va faire des choses et il va se passer des choses un petit peu comme de la constellation familiale, si on peut aller par là, mais c'est vraiment les chevaux qui vont bouger en interaction avec la discussion de la personne. Ou alors, on peut très bien aussi brosser le cheval. Voilà, j'ai des gens qui ont besoin de brosser, qui ont besoin de ressentir.
Le contact physique.
C'est ça. Alors, ça, on va dire, c'est 10% de mon travail, le toucher.
Ouais.
Bien souvent, tout au début de la séance, je demande de ne pas toucher le cheval pour vraiment ressentir en fait ses émotions et ressentir son corps. Parce que souvent les gens vont toucher direct l'animal et en fait ils veulent pas ressentir leur corps tout simplement.
Et oui, d'accord, très bien. Alors vous accompagnez des profils très variés, hein, enfants, personnes âgées, personnes en situation donc, de handicap, personnes en détresse. Comment vous vous adaptez à chacun ?
Je pense que ça, c'est ma connaissance que j'ai depuis l'enfance, parce que j'ai eu la chance d'avoir un papa équithérapeute, donc ça fait maintenant, j'en ai 38, je vais dire que ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Et pour moi, chacun est unique et a le droit, en fait, à son moment de partage avec l'animal.
D'accord.
Et chaque exercice qu'on va faire va venir à une reconnexion en fait, du public. Donc par exemple, des personnes handicapées, on sait qu'ils ont besoin d'avoir une connexion corporelle, qu'ils ont besoin de toucher pour ressentir leur corps. Donc eux, je vais les laisser toucher. On va par exemple faire du massage des chevaux pour qu'ils apprennent la motricité, la pédagogie, l'enregistrement aussi des facettes de massage par exemple. Et après, quelqu'un qui est plutôt en burn-out, je vais lui demander de se centrer sur lui, de découvrir par exemple son rêve, etc. Donc après, moi je me suis formée à beaucoup de publics. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir cette connaissance-là.
Voilà, donc vous adaptez à chaque fois selon vos méthodes et puis même votre... Enfin, c'est votre truc, hein, l'adaptation à l'être vivant, hein, de toute façon. Alors j'ai une question importante. Est-ce que les animaux ont le choix de travailler dans ces cas-là ?
Oui. Alors pour moi, un animal a le choix et tous les animaux peuvent faire de la médiation animale si l'animal est sociabilisé. Je parle pas d'éducation. Mais sociabiliser, c'est-à-dire qu'un animal qui vit avec nous, qui a l'habitude de voir des humains, qui a l'habitude de voir des choses, même s'il peut avoir un peu peur, hein, moi quand j'emmène mes chevaux à l'extérieur, des fois ils ont peur, mais justement ça permet à l'humain de gérer la peur de l'animal. Mais ils ont besoin d'être sociabilisés, de connaître des choses et d'avoir vu des choses. Voilà, donc d'accord, ça c'est très important. D'accord. Et l'animal choisit avec qui il a envie d'être.
D'accord.
Donc déjà dans un premier temps au niveau de la première chose qu'on fait quand on arrive chez moi, on va au milieu des chevaux. Donc j'ai un troupeau de 11 chevaux avec 3 lamas et on va au milieu de tout ça pour voir lequel est fait pour nous et lequel a cette énergie pour nous accompagner, etc.
Alors parfois il y a des animaux qui ne veulent pas forcément, donc tout vous les obligez pas pour avoir, vous ne voulez pas de résultats tout de suite, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas, ce sera pour une prochaine séance ou ce sera... Mais bon, en règle générale, donc l'animal a quand même cette liberté chez vous de venir vers l'humain et non pas le contraire.
C'est ça. Après, on peut avoir, par exemple, sur les personnes handicapées, je sais que bah, là, il faut quand même sécuriser les choses. Donc, on fonctionne avec sécurité. On peut bien sûr attraper le cheval et l'attacher. Mais si le cheval commence à trop bouger et ne veut pas, dans ces cas-là, on prend un autre cheval. Je ne voilà. force pas les choses. Mais en général,
ça se passe bien. Tout le monde a compris son rôle, en fait. Hein,
voilà. Je pense, hein. C'est ça.
Très bien. Alors aujourd'hui, donc, l'école de la vie, c'est bien plus que juste un travail de médiation. Vous avez su créer tout un univers autour de ces pratiques. On y reviendra dans quelques instants. À tout de suite.
Il est 10h41, si vous nous rejoignez, on poursuit notre émission Parole d'Animaux avec vous Rachel, et là c'est la News Info.
Alors voilà, donc de retour dans Parole d'Animaux, la News Info, alors une fois encore, nous partons à la découverte des plantes sauvages comestibles. Alors d'abord, nous commençons par la bardane. Vous savez, cette grande plante avec de larges feuilles et des fleurs en boule munies de crochets. Elle s'accroche aux vêtements à la saison des graines. Vous les retrouvez accrochées à votre pantalon souvent lorsque vous revenez de balade. C'est d'ailleurs la plante qui a inspiré le système du velcro. On la trouve souvent en bord de chemin, de terrain vague et zone riche en azote. Elle a pour propriété d'être détoxifiante pour le foie et la peau et favorise l'élimination des toxines. Donc, elle est utile contre les problèmes de peau, l'acné, l'eczéma. On peut la préparer en décoction de racines, par exemple en prenant une cuillère à soupe de racines séchées à mettre dans 250 ml d'eau, puis faire bouillir 10 minutes, filtrer, boire une à deux tasses par jour. Passons au trèfle, qui est une petite plante à trois feuilles, fleurs blanches ou roses que tout le monde connaît. On le retrouve dans les prairies, pelouses et zones humides. Il est dépuratif et riche en minéraux. Il soutient l'équilibre hormonal, comme le trèfle rouge d'ailleurs. On le consomme souvent en salade sauvage, c'est-à-dire qu'il faudra ajouter les feuilles et les fleurs fraîches à une salade verte avec vinaigrette tout simplement. Le cardère, c'est chardon cardère, est à récolter donc en ce moment. C'est une plante qui peut devenir assez grande avec des tiges épineuses et fleurs en forme d'œuf. Tout le monde l'a déjà vu, c'est obligé. On le retrouve en bord de route et dans les friches. C'est une plante qui est traditionnellement utilisée pour soutenir l'immunité et parfois même associée au traitement de la maladie de Lyme. On peut la consommer en décoction, c'est-à-dire une racine séchée, petite quantité hein, bien sûr, que l'on coupe en morceaux et que l'on fait bouillir 10 minutes. Elle est à ramasser actuellement car les racines sont plus concentrées quand ce sont des jeunes plantes. Il faut la consommer occasionnellement et elle est à utiliser avec précaution par avis professionnel. Maintenant, passons à la bête maritime. C'est l'ancêtre sauvage de la betterave et de la bête cultivée. Une plante aux grandes feuilles vertes, épaisses et légèrement brillantes. On la trouve le long du littoral, dans les dunes, falaises et bords de mer, les sols salins et sableux, même dans les marais argileux. Pour ses propriétés, elle est riche en minéraux, reminéralisante et favorise la digestion. Vous pouvez la préparer pour accompagner le poisson, par exemple, c'est-à-dire rincer soigneusement les feuilles, les couper grossièrement et les faire revenir avec de l'ail dans un peu d'huile d'olive. Faire cuire 5 à 7 minutes, poivrer et servir. Maintenant, le bugle rampant est cette petite plante tapissante avec fleurs violettes que l'on peut confondre avec le lierre terrestre. Il faudra alors se rapporter à la forme des feuilles. Les fleurs sont d'une couleur plus foncée que le lierre terrestre également. On la trouve en sous-bois et zones humides ainsi que pelouses en bord d'eau. C'est une plante astringente, cicatrisante et utile pour les petites plaies ou les inflammations. On peut la consommer en infusion légère, c'est-à-dire une cuillère à café de plante à infuser 10 minutes en usage occasionnel. Et donc le lierre terrestre est une plante rampante également, à petites feuilles arrondies et à odeur aromatique. On le trouve dans les jardins, les haies et les sous-bois. Comme il peut pousser dans les mêmes milieux que le bugle rampant, on peut les confondre. Le lierre terrestre est expectorant, donc aide lors de la toux, digestif et c'est un tonique général. On le consomme en infusion respiratoire avec une cuillère à café de feuilles que l'on dispose dans 250 ml d'eau chaude à infuser 10 minutes. On le boit en cas de toux. Petit conseil, certaines plantes sauvages peuvent être confondues avec d'autres ou avoir des contre-indications. Si vous comptez les cueillir vous-même, mieux vaut être sur de l'identification ou demander à un spécialiste. Allez, on se retrouve juste après une pause musicale.
Matin de ta vie sur la planète, ébloui par le Dieu soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie.
Vous aurez évidemment reconnu le Roi Lion, ma chère Rachel.
Eh ben oui, tout à fait. Hein. Donc cette circonstance d'ailleurs. Alors de retour donc avec Noélie dans Paroles d'animaux, votre centre, l'école de la vie. C'est bien plus qu'un lieu de soins. On va essayer de parler au maximum de tout ce que vous faites parce qu'il y a énormément de choses. Alors d'abord, on va définir votre centre aujourd'hui. Comment vous le définissez?
Le centre, il a deux facettes. Donc, il a le centre de thérapie où je reçois des personnes donc dans toute situation, comme vous avez pu l'entendre.
Oui.
Et après, il a aussi une autre facette où c'est le centre de formation où je forme en fait des thérapeutes en médiation animale. Donc, pour devenir en fait intervenant en médiation animale, mmh. Ça fait. Enfin, c'était le début en fait. Ça a été la base de mon centre. Voilà, enfin, je fais de la formation, en fait, je forme. On peut être thérapeute, intervenant, dans tout ce qui est médical. En reconversion, varié, c'est assez varié, ouais.
D'accord, vous avez beaucoup de publics, beaucoup de personnes qui viennent c'est se former de divers horizons. Alors, vous développez aussi un jardin partagé avec un projet de maraîchage. Alors, pourquoi ce lien avec la terre est-il si important dans votre approche à vous?
Ben, en fait, j'ai acheté un lieu qui fait 14 hectares, où j'ai tous mes animaux sur le site. Et le projet est venu d'une discussion, en fait, avec des lieux d'accueil de personnes handicapées. Et on s'est aperçu, en fait, que ces personnes-là adoraient venir aider. Et on m'a proposé de venir, en fait, m'aider sur le lieu, avec les animaux, etc. Et on s'aperçoit, en fait, que ces personnes-là, quand elles retrouvent un peu de... Enfin, quand on s'occupe d'eux et qu'on prend en fait un peu d'intérêt pour eux, ben c'est des gens qui sont totalement capables de faire des choses. Et ayant 14 hectares et voulant manger bien, parce que bah, aller acheter au supermarché, c'est pas ma devise, je me suis dit, bah, tiens, la terre que j'ai, comme aujourd'hui, bah, c'est une terre qui ne reçoit pas de pesticides, rien du tout, même pas d'engrais, elle vit, elle s'autogère et elle s'auto-vit toute seule. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un jardin. Et d'un jardin, on est venu en fait à faire un projet de maraîchage. Et j'ai commencé en fait à en parler à des structures, et petit à petit, bah, elles m'ont dit, bah, si, nous, ça nous intéresse, parce que ça permettrait de reconnecter les gens au vivant, etc.
Et ben c'est venu comme ça.
Voilà,
et c'est vrai que chez vous, j'y suis déjà allée, c'est vraiment sauvage et ce sont des bocages, hein, on peut dire ça comme ça. C'est entouré de haies, c'est des prés qui n'ont pas été touchés depuis très longtemps, même voire depuis toujours peut-être. Et du coup, c'est vrai que d'amener ces personnes-là à se reconnecter avec la terre, en touchant la terre, ça permet de se reconnecter au vivant, comme vous disiez. Hein.
C'est ça, puis être au milieu des marées, être au milieu de cette nature-là, ça permet d'avoir... Puis il y a une tranquillité aussi sur le lieu. Donc je pense que c'est aussi ça qui amène les gens en fait à se reconnecter à eux. Quelqu'un qui a un burn-out, il reste 15 jours, 3 semaines sur le lieu et il se reconnecte à lui.
Voilà, je ne suis pas étonnée du tout, effectivement. Alors vous avez également une association qui s'appelle Paradoxe Sauvage, qui recueille des animaux abandonnés ou maltraités. Comment ça fonctionne?
Alors en fait, l'association, elle est née au mois de mars l'année dernière parce que je recueillais surtout des gros animaux. Alors pas forcément chiens, chats, mais plutôt chevaux, ânes, des choses
des
comme
gros
ça.
Animaux,
gros
en fait,
animaux.
Hein.
Et en fait, à la base, je le faisais pour moi personnellement. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah tiens, autant faire une association. Donc l'association, elle a été faite comme ça et pensée aussi pour qu'on puisse aller dans d'autres refuges ailleurs. Donc c'est pour ça qu'au mois d'octobre, on va partir en refuge en Thaïlande avec des éléphants, qu'au mois de décembre, on va partir aussi dans le désert avec les dromadaires et les nomades, pour en fait aller voir ce qui se passe sur place et aussi aller aider. Donc l'association, elle a ces deux buts-là, à la fois de recueillir, mais aussi d'aller voir autre chose dans les autres refuges et aller aider, faire de l'humanitaire, animalier, parce que ça se fait pas trop. Mais moi, je trouve ça incroyable de partir avec une dizaine de personnes et que en fait, on aille là-bas pour.
J'ai l'impression que votre association est un peu un sanctuaire aussi bien pour les animaux que pour les humains qui ont besoin de voir un petit peu autre chose que la vie courante en faisant des voyages comme ce que vous organisez, quoi. Hein.
Oui,
c'est vrai, hein.
En fait, je pense que l'humain a besoin de se reconnecter à la nature parce qu'on s'est mis tous dans les villes. Et dans les villes, mais à part du béton et des immeubles, on n'a pas la nature. Enfin, même si on fait du petit, on fait du petit jardin, etc. Mais c'est très différent. Et je pense qu'en fait, notre nature préhistoire, elle nous ramène à revenir en fait à la nature, à revenir à quelque chose de beaucoup plus lent au niveau de notre vie. Arrêter de faire du métro boulot dodo et juste en fait vivre.
C'est ça, exactement. Alors vous proposez aussi des séjours de rupture, notamment pour les jeunes et des personnes en difficulté. Quel est l'objectif de ces séjours-là justement? C'est pas les mêmes choses?
C'est pas du tout pareil. En fait, sur le lieu, j'ai un gîte qui peut accueillir entre 8 et 10 personnes. Et j'ai commencé à accueillir en fait des personnes en situation de handicap qui venaient passer en fait des vacances, et pendant ces séjours-là, je faisais de la médiation animale avec eux. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à promouvoir la chose et je me suis aperçue qu'il y avait des jeunes qui avaient besoin en fait de séjours de rupture, c'est-à-dire qu'on les enlève de leur milieu, par exemple en foyer ou des choses comme ça, et qu'on les mette en fait dans des situations différentes de leur vie de tous les jours pour qu'ils puissent se reconnecter à eux et aussi réavoir un rêve et un intérêt en fait à leur vie. Si je prends un exemple, quelqu'un qui a un burn-out, c'est quelqu'un qui a été en pression et en stress constant, qui s'en est pas forcément conscientisé la chose, et son corps demande en fait de dépressuriser en fait toute cette pression, un petit peu comme une cabine, on va dire d'avion si on va par là. Et en fait, du coup, la dépression est égale en fait à un mode survie de notre corps. Voilà. Et de faire en fait compte ces séjours-là, ça permet de faire une pause dans sa vie et de revenir à soi, de revenir
à l'essentiel
et puis de continuer à avoir cette relation avec l'animal et de découvrir en fait qui on est.
D'accord. Et puis aussi développer la relation avec l'autre humain, enfin l'humain, aussi améliorer les relations en tout cas. Alors après, vous avez aussi, vous faites des conférences sur votre expérience et sur le lien homme-animal. Où peut-on d'ailleurs vous retrouver prochainement ?
Alors, j'ai 4 conférences qui vont être faites. Je pars, je suis en train de réfléchir, la première, ça va être à Puy-Borot, qui sera le... Alors, si je ne me trompe pas, c'est 17-18 mai, c'est un week-end. Après, je pars à Nantes faire le salon du paradoxe et salon du bien-être, où là, je serai le 29, 30 et 31 à Nantes. Après, je vais à Loumaux. Et ça, c'est en septembre, j'ai plus les dates en tête. Et après, je vais à Niort au mois de novembre faire le paradoxe sauvage aussi.
Ok, et là, on peut vous suivre donc sur Facebook.
Oui, je l'annonce.
Vous l'annoncez, voilà. Oui. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans la communication. Je vois sur Facebook, il y a peut-être Instagram aussi.
Alors, j'ai Instagram aussi. Okay. Je fais aussi la même chose. Et après, j'ai une chaîne YouTube.
Oui.
Et c'est à peu près tout.
D'accord, c'est déjà pas mal. Donc on peut vous suivre par biais de divers médias ou même des réseaux sociaux en tout cas.
Oui.
Et puis il y a un événement important pour votre centre, le Paradoxe Festival, les 14 et 15 août. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
En fait, ça en est venu que l'année dernière, je devais partir en trek donc au Maroc et on a lancé la première édition du Paradoxe Sauvage. La première édition, c'était de faire du coup un marché énergétique et faire des conférences sur la partie énergie, spiritualité et animaux. Et on avait fait un concert en fait du coup avec l'association à la fin avec un peintre intuitif qui peignait en même temps dans le concert. Et donc là, en fait, cette année, on relance du coup le festival qui sera aussi sur mon lieu avec un concert donc,
à la ronde,
14.
Quand vous parlez de votre lieu, c'est à la ronde.
À la ronde, ouais. D'accord. À la ronde. Donc le 14, on aura le concert. Pour le moment, j'ouvre en fait pour ceux qui veulent venir. Hein. Je n'ai pas encore sélectionné de groupe.
D'accord, ok.
Et le 15, Et le 15, on fera aussi pareil un marché avec des exposants.
D'accord.
Et aussi des conférences, mais aussi ça sera orienté sur toute la partie handicap et inclusion et lien avec homme-animal. Parce que pour moi, c'est très important en fait, de mettre ça en relation.
Ah, c'est vraiment très intéressant tout ça. Alors avant de conclure, j'aimerais vous poser une question importante pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui est au fond du gouffre, voilà, qui n'en peut plus. Quel message auriez-vous envie de lui transmettre ?
Eh bien déjà qu'elle se reconnecte à sa part animale et qu'elle revienne à elle et que à tout moment il y a de l'espoir et que tout est possible en fait, juste faire son rêve en fait. Si on prend la chanson du Roi Lion, c'est l'histoire de la vie, et l'histoire de la vie c'est son rêve, et les gens qui arrêtent de rêver arrêtent de vivre.
Et
pour moi le rêve c'est essentiel, et le rêve c'est pas que l'enfant, le rêve c'est l'adulte. Et le rêve est égal à des objectifs qu'on se met dans notre vie, et quand on a des objectifs, on réalise son rêve.
Donc les épreuves font partie de la vie.
Bien sûr.
Et il faut les accepter malgré tout. C'est vrai que c'est difficile de le dire. C'est facile de le dire, mais il faut accepter les choses. Et puis on vous contacte si on a besoin vraiment d'être en contact avec la nature, se reconnecter à soi-même. On vous recontacte. Eh bien, un immense merci Noli pour ce témoignage sincère et très inspirant. On retient que parfois il suffit de ralentir, de revenir à l'essentiel, de se reconnecter à ce qui est là, tout simplement. Merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Noélie.
Merci. Au revoir.
Merci Noélie. Merci Rachel. On a un petit peu de temps là, Rachel, si vous le souhaitez, pour annoncer la prochaine émission. Ça sera le 18 avril et vous recevrez Elsa Varou d'Animal Nutrition.
Voilà, qui est située à la Gore, donc à la limite de La Rochelle.
C'est
un magasin qui propose donc de l'alimentation pour les animaux, mais aussi du matériel, etc. Donc on développera tout ça. C'est vraiment un centre, enfin c'est un magasin qui est très intéressant. C'est pour ça que je les ai contactés d'ailleurs.
Et ben rendez-vous le 18 avril.
Tout à fait.
Très bon week-end Rachel.
Allez, à bientôt.
Et à bientôt.